Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr. Cette semaine, nous sommes à nouveau réunis en plein air, à la belle saison. Quoi de mieux que de converser sous la tonnelle ? On vous embarque aux puces du canal, à la fessine, convivialité et trouvaille assurée. Comme c'est bon ! Comme c'est bon de vous retrouver, un peu comme la réouverture des terrasses des cafés, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, les terrasses des cafés, les restaurants, comme on a apprécié. Avoir le droit de prendre le temps et de déguster la vie. C'était bon. Au sommaire, et c'est bon aujourd'hui encore, au sommaire pour évoquer ce nouvel endroit branché qui est les puces, je recevrai Stéphane Blanchet. Son directeur Guillaume fera parler et chanter la talentueuse Louise Combier. Gaël, toujours à l'affût des artistes et de ceux qui les montrent, nous parlera des galeries photos, notamment rue Bourdeau. Et pour finir, nos Gédéons, les incontournables du moment, évidemment. Bonjour Stéphane Blanchet.
Bonjour.
J'évoquais dans mon lancement les puces du canal comme un nouvel endroit branché. Je crois savoir que vous avez contribué à changer l'image de ce lieu emblématique et très couru des chineurs de la région. Depuis quand dirigez-vous ce lieu, Stéphane ?
Cela va bientôt faire 5 ans, depuis décembre 2015. Et en effet, depuis 5 ans, il y a un peu de chemin qui a été réalisé avec l'équipe. Et avec les marchands qui ont fait évoluer aussi le site, qui nous ont aidé aussi à évoluer le site. Et on est ravis de vous accueillir ce soir.
Ouais. Alors on est là bien sûr dans un cadre très festif, puisque vous avez souhaité la mise en place à l'intérieur de ces puces du canal d'un festival qui s'appelle les Nuits du Canal. On en a parlé la semaine dernière avec Michel Bernini. Aujourd'hui, je voudrais plutôt aborder la question bien sûr événementielle, qui est le marché, puisque c'est le jeudi, le premier déballage c'est le jeudi matin, il y a déjà beaucoup de monde, mais évidemment rien de commun avec le dimanche, parce que le dimanche, tous les Lyonnais donnent rendez-vous ici.
Vous avez raison Gaëlle, mais il y a également le samedi, donc ouais. C'est le jeudi entre professionnels, historiquement, et c'est vrai qu'il y a essentiellement des gens qui sont autour de l'objet, donc ça peut être un architecte, ça peut être un designer, ça peut être un marchand qui doit équiper un client dans l'hôtellerie ou dans la restauration par exemple, mais également les samedis pour les particuliers, parce qu'en fait, pourquoi le samedi pour les particuliers ? Parce que le dimanche on n'a plus de place.
Ah ouais, c'est ça.
On a même dû limiter la jauge du fait du Covid, mais malgré cela, même avant le Covid, on était déjà à bloc. Et du coup, les particuliers on a ouvert le samedi un peu plus pour les particuliers. Donc en fait, par semaine, nous créons 3 événements traditionnels. Et désormais, on s'est ouvert un peu au monde culturel avec les Nuits du Canal dont vous a parlé Michel la semaine dernière, pour étendre un petit peu notre champ d'action. On a une expérience de l'ERP, puisque comme je vous disais tout à l'heure, nous recevons
trois événements. Recevons du public, je le dis.
Voilà,
pour
exactement.
Tous.
De première catégorie. Ouais. Nous avons donc 3 événements par semaine. Ça s'est figé dans le marbre. Hormis pendant le Covid, mais sinon, toutes les semaines de l'année, nous avons 3 événements par semaine. Et fort de cette expérience, on s'est dit pourquoi ne pas étendre notre expérience à d'autres choses. On a commencé par le petit bout de la lorgnette en ouvrant un atelier du canal, une galerie d'art qui a ouvert en septembre 2019 et qui aujourd'hui est une vraie réussite. Nous sommes ravis. Emma Cole a fait un travail extraordinaire. Là, nous avons développé depuis maintenant 4 semaines les Nuits du Canal et c'est chouette. Donc ça laisse un champ des possibles énorme. On a plein de demandes sur d'autres domaines, de concerts et autres. Donc on est ravis de ce choix.
C'est tout à fait normal parce que vous avez une zone ici gigantesque.
Nous sommes sur 6 hectares et demi en effet, aux portes de Lyon, puisque tous les axes sont là. On est à 12 minutes de Bellecour. On a les transports en commun qui viennent. On a un partenariat avec le Citral qui nous ouvre des bus si on fait des événements importants. On a la voie vélo juste à côté.
Bien sûr.
Non, on est bien placé. Donc
et vous avez
on
un super chapiteau s'il pleut.
Et il est beau ce chapiteau. Il est grand, il fait 30 par 40 mètres. Ouais. Alors il est hexagonal, donc il ne fait pas 1200 mètres carrés, mais il fait 1800. 1008 mètres carrés. Donc on peut faire des super, des super choses dedans.
Ouais.
Et on n'a pas fini de vous étonner. On a prévu des choses intéressantes avec les enfants pour la période de Noël.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que les puces du canal, c'est le deuxième marché aux puces de France après Saint-Ouen. C'est quand même pas rien. Et le cinquième marché européen, entre 300 et 600 marchands pardon, chaque week-end.
En effet. Donc sur ces 6 hectares et demi, nous avons 250 marchands attitrés, comme des boutiques dans le centre-ville.
Voilà, qui ont une boutique attitrée.
Un droit commercial, voilà, c'est leur propriété, c'est leur boutique. Mmh. À cela, il faut rajouter les marchands pour la journée. Mmh. On appelle cela des déballeurs. Donc ils viennent soit le jeudi, soit le samedi, soit le dimanche. 400 déballeurs plus ces 250 marchands, ça fait 650 marchands. Vous comptez une personne et demie par boutique, ça fait plus de 1000 personnes. À cela, il faudrait rajouter les guinguettes, 6 guinguettes, une brasserie, une boulangerie. On a plus de 1000 personnes qui travaillent les dimanches matins. C'est une ville dans la ville.
Absolument. Et il faut imaginer entre 6 et 8 000 visiteurs les dimanches. C'est quand même absolument incroyable. Qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud. Moi, j'adore venir aux puces. J'y viens très régulièrement. Vous avez été également prescripteur de l'invention de quartiers ici. Vous disiez, cette zone, elle est gigantesque. Donc, il faut un petit peu la sectoriser. Donc ici, nous sommes installés dans le quartier des containers, mais il y a aussi l'école, il y a aussi la partie donc en dur, il y a bien sûr
les tôles
de Louis la Brocante, qui sont célébrissimes.
Voilà.
Absolument. Et il y avait donc notamment cette fameuse émission, ce feuilleton.
C'était même une série.
Ce feuilleton.
C'était les premières séries.
C'est ça, les séries sur France 3 qui étaient tournées donc ici. Donc sectoriser, c'est important aussi pour que chacun s'y retrouve.
Oui, le village des containers a été assez récent. C'est le dernier quartier qui s'est ouvert il y a maintenant à peu près 3 ans et demi. Ça a apporté une nouvelle offre plutôt vintage.
Oui,
la moyenne d'âge des marchands est entre 35 et 40 ans et c'est à peu près leur population, leur tribu qui viennent voir le village des containers. Il y a l'école. Alors l'école, on peut trouver des très particulier, vous allez avoir des vieilles marchands qui vendent que des platines vinyles. Vous allez avoir la colonne vertébrale des puces qui est la halle où la Brocante, vous en parliez tout à l'heure. Et puis les traboules, donc ça c'est le grand bâtiment en dur dans lequel on a eu la chance d'avoir beaucoup de marchands de la cité des antiquaires qui nous ont rejoints.
C'est ça.
Donc du coup on a une offre assez sympa et finalement tout le monde arrive à trouver un objet qui puisse lui plaire, puisque là on est un petit peu une agora et la cité de l'objet. J'ai du plaisir à répéter cette cité de l'objet.
Oui, c'est vrai.
On peut repartir avec des objets sans avoir du tout pensé à acheter quoi que ce soit en venant le matin aux puces.
Ouais, ce que je disais, vous avez totalement dépoussiéré un peu cette idée que les puces, c'était des vieux trucs qu'il fallait restaurer ou retaper tout seul. Là, il y a vraiment un travail d'antiquaire pour certains qui ont retapé des objets, qui ont transformé, voire même des objets, en des objets de design, vraiment.
Oui, puis c'est des objets qui ont une histoire, qui ont une âme. Et je pense que les gens aujourd'hui le recherchent. Vous parliez tout à l'heure des nuits du canal. On a fait des sièges avec des pneus repeints et de la corde. C'est du recyclage et finalement c'est très confortable.
Ouais.
Et finalement la vie est cyclique et refaire vivre des objets, c'est magique.
Ouais. Je suis complètement d'accord avec vous, surtout dans cette période où on nous invite à être évidemment moins consommateurs d'objets neufs. Je pense que les puces ont tout leur sens. Je voulais simplement terminer en évoquant la brasserie L'Oscar. C'est un concept qui est également tout à fait novateur, original. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots,
Bien sûr.
Stéphane ?
La brasserie nous a rejoints il y a maintenant 3 ans et demi. C'est un bel espace. Il y a 750 mètres carrés. Ils peuvent accueillir 250 ou 300 personnes. Le dimanche, il faut réserver parce que les 300 personnes sont au rendez-vous. Et qui plus est, c'est les deux patrons de Oscar ont des profils très intéressants et créent des événements assez sympas, puisque le samedi soir, ils lancent un concept tous en scène. C'est-à-dire que les serveurs se transforment en artistes et puis lancent un peu de musique, un peu comme à Broadway. Ils sont un petit peu inspirés de ce qui se passait à Broadway. Et c'est bluffant, enfin, il faut le vivre pour l'imaginer.
C'est
pour
tout à fait incroyable. Merci beaucoup de nous en avoir dit deux mots. Merci Stéphane Blanchet de nous accueillir ici, aux puces du canal. Eh bien, bel été, Stéphane.
Merci, et on vous attend. À très vite.
À très vite. Hello Guillaume, c'est avec une charmante et talentueuse artiste que tu es venue accompagner aujourd'hui. Bonjour Louise Combier.
Bonjour.
Ravie de vous recevoir sous la tonnelle des puces du canal. Est-ce qu'un lieu comme celui-ci vous inspire, Louise ?
Oui, il pourrait m'inspirer. Et c'est surtout un lieu que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les vieux objets.
Vous venez, vous fréquentez les puces ?
Alors non, pas tellement, mais quand je viens, en tout cas, j'aime beaucoup.
Vous aimez chiner, vous aimez regarder les vieux objets, etc. Mmh. Dans votre clip « Une fleur en hiver », vous parcourez le marché de la place Jean Massé. Allez, je n'en dis pas plus, je te laisse avec ton invité.
Avec Guillaume. Un vieil objet aussi, oui, c'est ça.
C'est vrai.
Tout à fait. Donc oui, je voulais faire découvrir un petit peu, pas vraiment découvrir au public lyonnais, parce que quand même, comme tu es de Lyon, tu as fait pas mal de dates ici à Lyon. Mais voilà, je voulais te rencontrer. Parce que j'ai très envie de parler de ton travail. Oui, alors commençons par quand même des choses qui sont d'une évidence. Voilà, tu as fait The Voice, parlons-en directement.
Oui.
Moi, ce qui m'agace un petit peu dans ce télécrochet, c'est que tout le monde lui tombe dessus. Alors finalement, c'est une expérience assez riche. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de artisanais qui ont participé à cette émission et qui à chaque fois, finalement, en ont retiré quelque chose. Donc j'aimerais bien que tu me parles en quelques instants de ton expérience de ce moment-là.
Alors oui, j'avais beaucoup d'a priori avant de faire cette émission, j'avais beaucoup d'a priori sur l'émission, sur le fait que ce soit des candidats un peu à la chaîne, quoi, sans univers, simplement des gens qui veulent devenir des stars, mais sans composer ni rien. Et finalement, j'ai vraiment découvert des personnes formidables. Les gens qui nous ont entourés ont été exceptionnels et surtout, ils ont respecté mon univers. Et même ont été au service de celui-ci, quoi. Donc ça m'a beaucoup plu et j'ai découvert tout à fait autre chose et j'en ai là honnêtement j'en garde vraiment un très bon souvenir. C'est une très belle expérience.
D'accord. Donc là tu es en plein enregistrement de ton premier EP, je crois.
Oui.
Tu peux peut-être nous en parler. Où est-ce que tu enregistres? Combien de chansons? Est-ce que ça va être des chansons toutes originales sur cette EP où il y aura des titres qui sont déjà, comme on le disait tout à l'heure, déjà sur YouTube en clip ou pas du tout?
Alors, pour l'instant, c'est un peu délicat parce que j'avais donc le projet d'enregistrer cet album avec Lionel Vibration, qui est mon manager actuel et qui m'a proposé d'être mon label. Et finalement, j'ai décidé de refuser cette offre et de composer mon album chez moi toute seule pour attirer des gens qui seraient intéressés, non pas par moi et par le produit qu'ils ont vu à la télé, mais par mon travail. Et donc voilà, j'ai décidé de composer seule et ça fait bizarre. Et finalement, j'aime beaucoup trouver des sons, faire des arrangements, etc. C'est une chose que j'avais jamais faite et finalement, ça me plaît beaucoup.
Alors justement, parlons de ça, des arrangements, puisque pratiquement toutes tes chansons, puis même en concert, c'est quand même plutôt piano-voix. Oui. Donc est-ce que tu vas rester dans cette veine-là ou au contraire, justement, essayer de trouver des textures, des choses un petit peu différentes?
Alors je veux garder le piano parce que c'est avec le piano que je compose, donc forcément il y a du piano, en tout cas dans les maquettes. Mais justement, j'ai envie d'intégrer d'autres sons, d'autres sonorités un peu plus modernes, je pense, et voilà, qui sont un peu plus dansantes aussi. Enfin voilà, je cherche des choses, mais c'est surtout les sonorités qui m'intéressent, les sonorités de clavier un peu différentes, mais quand même en gardant la base du piano.
D'accord. Et les thèmes de tes chansons, on disait tout à l'heure, c'est vrai, Gaël disait, ce qui t'avait troublé, c'est que finalement, ce que tu chantes, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment les chansons de ton âge. Je sais pas si c'est très juste ce que je dis là, mais on te le dit certainement souvent.
Oui.
Et moi, je me disais, voilà, une jeune fille de 20 ans, bon, bah voilà, il y a Angèle, par exemple, pour être dans le cliché. Et je trouve très bien Angèle, c'est pas la question, hein, mais voilà, mais elle chante des choses de son âge. Toi, c'est un petit peu différent. Il y a un côté un peu Barbara, malgré tout, sans tomber dans les références qui te plomberaient, voilà. Mais justement, moi, je trouve qu'au niveau des textes, il y a vraiment un truc assez adulte, finalement. Mm. Même si t'es un adulte, hein, c'est pas le sujet.
Alors oui, effectivement, j'ai toujours été attirée par la mélancolie, la nostalgie, enfin la tristesse en général. Quand je compose, c'est souvent des chanteries ce qui me touche le plus en fait. Et donc voilà, je suis amenée à écrire comme ça. J'ai mis des poèmes en musique aussi beaucoup avant d'écrire. Et finalement, y a toujours cette nostalgie qui peut parfois être un peu pesante parce que parfois je me dis est-ce que je vais je vais réussir non pas à en sortir, mais à aller un peu quand même ailleurs.
Je crois que justement, quand tu étais à The Voice, il y a eu une petite vignette qui te montrait et tu mettais en musique un poème de Houellebecq. Alors Houellebecq, oui. C'est pas vraiment nostalgique, c'est même plutôt... Enfin voilà, on sait pas trop où le classer d'ailleurs, Michel Houellebecq. Alors est-ce que tu continues de mettre en son des poèmes de Houellebecq?
Alors j'en ai mis deux en musique de lui, simplement comme ça, que je publierai peut-être pas, ou peut-être, je sais pas, mais il peut y avoir une nostalgie avec la musique, les accords, après... Moi je trouve que quand même, enfin c'est quand même très poétique, même s'il y a quand même des images un peu brutes, mais on peut toujours rendre quelque chose nostalgique.
Oui, mais c'est un peu trash quoi, enfin Houellebecq,
oui.
Voilà.
Oui,
c'est...
mais oui, bien sûr. Ouais, mais on peut dire du trash sur des accords un peu mélancoliques ou des choses comme ça.
Ouais.
Voilà.
D'accord, et donc voilà, si je te propose, c'est amusant parce que tout à l'heure en venant on en a un petit peu discuté, voilà, un petit choix en fait d'artistes masculins éventuellement pour travailler avec. Alors je te propose Albin de la Simone, je te propose Peter Von Paul, je te propose Pierre Fascini et je te propose le Lyonnais de l'étape, il va m'engueuler si je dis ça, Benjamin Biolay. voilà, est-ce que tu aurais un choix particulièrement précis?
Oui, parce que Benjamin Biolay, ça fait des années que j'adore sa musique. Donc depuis que j'ai à peu près 12 ans, tout ça, j'ai écouté. Donc Benjamin Biolay, oui, c'est sûr.
Oui, un petit duo.
J'hésiterai pas.
Ouais,
oui,
une production, des arrangements. Alors je crois qu'on va écouter un titre. Hein, on va écouter un titre, d'ailleurs justement, qui s'intitule Paris. Alors vu que tu es à Lyon, pourquoi Paris?
Paris, oui, c'était le titre que je lui avais donné, mais c'est en fait un poème de Paul Éluard qui s'intitule Courage. Et d'ailleurs, ils veulent qu'on l'intitule Courage, les éditeurs. Donc, c'est un poème de Paul Éluard et qui, je trouve, parle beaucoup aujourd'hui avec notamment les événements et tout ce qui peut se passer. Donc, qui est très, 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 très actuel, quoi.
D'accord, bah écoute, on va t'écouter et puis on attend vivement cet enregistrement futur pour te revoir sur des scènes lyonnaises très prochainement puisqu'elles rouvrent toutes. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Paris a froid, Paris a faim, Paris ne mange plus de marrons. Dans la rue, Paris a mis de vieux vêtements de vieille. Paris dort tout debout sans air. Dans le métro, plus ce malheur encore est imposé aux pauvres. Aux pauvres. Paris a froid, Paris a faim, Paris ne mange plus de marrons. Dans la rue, Paris a mis de vieux vêtements de vieille. Paris dort tout debout sans air. Dans le métro, plus de malheur encore est imposé aux pauvres. Et la sagesse et la folie de Paris malheureux, c'est l'air pur, c'est le feu, c'est la beauté, c'est la bonté de ces travailleurs affamés. Ne crie pas au secours Paris, tu es vivant d'une vie sans égale. Et derrière la nudité de ta pâleur, de ta maigreur, tout ce qui est humain se révélant. Dans tes cieux. Tu ne supportes pas l'injustice. Pour toi, c'est le seul désordre. Tu vas te libérer, Paris. Tu vas te libérer, Paris. Te libérer, Paris.
Salut Gaëlle, aujourd'hui c'est de galerie photo que tu avais envie de nous parler, je crois.
Exactement. Je voulais citer le Photographie Lyon & Co, qui est un petit carnet trimestriel sorti en 2015. Il recense les programmations dédiées à la photo et les événements autour de l'image à Lyon. Parfois, il cite aussi des programmations au-delà de Lyon, en résonance avec la photo, comme par exemple Arles, quand les rencontres ont lieu. Ce qui n'est malheureusement pas le cas cet été. L'agenda 19 de Photographie Lyon & Co, édition juin à août 2020, est sorti. Comme le souligne l'éditorial de Catherine Derrioz de la galerie Le Réverbère, qui signe la coordination éditoriale de cet agenda, le numéro 19 a été conçu en plein Covid-19. Les nécessités dues à l'actualité sanitaire font que ce dernier numéro n'est disponible qu'en version numérique, contrairement aux précédents numéros qui sont distribués dans de nombreux espaces culturels et, j'insiste, le guide est gratuitement mis à disposition. Pour citer quelques informations de ce dernier agenda photo, notez que la galerie Le Réverbère, au 38 rue Burdeau, met à l'honneur 4 photographes qui parcourent des territoires avec des itinéraires sans destination. Silence du voyage, solitude et recherche d'un équilibre intérieur transparaissent dans leurs photos. L'exposition est à voir jusqu'au 18 juillet. Septembre 2020 marquera aussi un anniversaire, celui de la galerie Vrai Rêve, au 6 rue du Mange, qui va donc fêter ses 40 ans le 11 septembre prochain. La galerie Vrai Rêve, ouverte sous forme d'association en octobre 1980, programmera 2 photographes qui exposeront des travaux retraçant justement l'espace-temps de ces 40 années. Feuilletez bien le numéro 19 de Photographie Lyon & Co, cette chronique ne pouvant pas aborder toute l'actualité photographique. Je souhaitais cependant faire un focus sur une jolie nouvelle, d'autant plus jolie que les temps sont difficiles. C'est l'ouverture d'une nouvelle galerie d'art contemporain, la galerie Norka. Quand on épelle, c'est donc N-O-R-K-A. Installée au 35 rue Burdeau, dans l'espace de l'ex-galerie Palade, face donc à la galerie Le Réverbère. Nous souhaitons la bienvenue et du succès à la galerie Norka. Fondée par une photographe indépendante, Caroline Capel-Tour, la galerie porte le pseudonyme de sa fondatrice. Entre peinture et photo, Norka lance une invitation à la découverte d'une programmation axée sur la thématique du mouvement. Individus en mouvement, passants, danseurs, performeurs, avec une fréquence de 5 à 6 expositions par an. Norka elle-même inaugure la programmation avec une série intitulée « L'individualité en mouvement » dont l'approche tend vers des visions existentialistes. Kézako, existentialisme, on pense à Jean-Paul. Petit rappel, post-it Sartre, l'existence précède l'essence, soit l'homme est d'abord et se définit ensuite. Mais c'est Martin qui est cité dans le flyer de l'exposition. Martin, c'est Martin Heidegger. Dans un livre assez difficile d'accès car très ambitieux, livre de 1927 intitulé « Être et temps », le philosophe parle de l'angoisse qui saisit l'individu quand il se rend compte que c'est lui qui se choisit. La question du sens de l'être est très importante chez Martin Heidegger, qui développe aussi l'idée du Dasein, qui est Zako Bis. Dasein qui s'écrit D-A-S-E-I-N. Si je vous parle du Dasein, c'est qu'il est également nommé dans le flyer de l'exposition. Dasein, mot allemand, signifie être là, être présent, mais aussi le fait d'être aux autres, car un homme seul, cela n'existe pas, on est toujours lié aux autres. Martin Heidegger pose la question de notre existence authentique, le vivre vrai, sans tomber dans la dictature du « on ». Norka nous offre des représentations qui traduisent visuellement ces notions, quand l'être peut se perdre jusqu'à, parfois, s'effacer. La série « L'individualité en mouvement » montre en effet physiquement et visuellement cet effacement. Les passants urbains des photos de l'exposition marchent à vive allure. Seule la trace du passage corporel subsiste. Chez Norka, c'est l'empreinte du corps en mouvement qui est expressive. N'oubliez pas que la thématique de la galerie, c'est le mouvement, et non pas le visage. Les visages n'étant pas reconnaissables, car absents, fuyants, abstraits, devenus flous, victimes du mouvement rapide de leur marche. Fait éloquent, en période où nous avançons actuellement presque tous masqués avec un visage à moitié saisissable aux yeux des autres. Retour à Martin Heidegger. Quel est le sens et la consistance du rapport à l'autre? Retour aux photos de Norka. Le corps dépassant perd de sa substance. La série « L'individualité en mouvement » est un corps à corps philosophique et photographique. C'est quoi être? Je suis mais quoi? Et qui? Et les autres dans tout ça? Les passants de Norka nous intriguent, figuratifs et abstraits à la fois, ils filent, ils tracent. Cette trace est techniquement rendue par le filet statique, cette technique également nommée flou de mouvement. Les personnages en déplacement sont flous car la vitesse d'obturation trop lente ne permet pas de les figer. La superposition des images qui se produit lorsqu'un passant observé bouge trop rapidement joue avec la persistance rétinienne. Le passant laisse alors une empreinte en suspens ou disparaît dans un mouvement flou. Les identités que saisit Norka sont si floues qu'elles deviennent transparentes et fantomatiques au regard des autres. L'énigme est là. Et si notre société, avec sa culture du sprint, ne nous donnait plus qu'à voir des visages déformés, des silhouettes floues, au corps distordu. Quid de l'ouverture aux autres et au monde, car on a besoin de l'autre pour être soi-même. L'autre nous stimule, sinon pointe le risque de s'éteindre, de perdre en densité et donc de s'effacer. L'art est aussi là pour nous faire prendre conscience de tous les aspects du réel. Or, Norka révèle les distorsions naissant du mouvement, de la vitesse, du dynamisme et de l'action. L'exposition « L'individualité en mouvement » est programmée jusqu'au 29 août à la Galerie Norka. Enfin, le petit carnet « Photographie Lyon & Co. 19 » peut être téléchargé sur le site ac-ra.eu.
Merci beaucoup Gaëlle. On termine cette belle émission au soleil couchant avec nos Gédéons, comme d'habitude. Nous vous avons préparé des petits coups de cœur. Guillaume, tu es venu également accompagné d'un coup de cœur. On t'écoute.
Alors oui,
Guillaume.
Moi, c'est pas vraiment un coup de cœur parce que c'est une grosse sortie qui a lieu demain. C'est le nouvel album de Benjamin Biolay qui sort le vendredi 26 juin avec 13 nouveaux titres inédits. On en parlait tout à l'heure avec Louise Combier. J'aimerais beaucoup qu'il y ait une collaboration entre eux. Voilà, cet album, comme je disais un petit peu en aparté, là, effectivement, Benjamin Biolay arrive à être Benjamin Biolay, mais à se renouveler en fait. Et donc, vraiment, c'est un très beau disque. On pourrait appeler ça un disque concept parce qu'il s'appelle Grand Prix. Donc, ça tourne autour de l'automobile. Voilà, mais comme d'habitude, il y a beaucoup de spleen à la Biolay. Et ce qui est particulier là, pour cette sortie d'album, pour l'occasion, il y a quatre artistes, en fait, quatre graphistes qui ont réalisé 13 illustrations inspirées des 13 chansons. Et ça donne des originaux qui sont assez assez, assez incroyable. Voilà, si on aime une chanson d'album, on peut s'offrir une illustration. Et puis on a de la chance à Lyon, puisqu'il sera en tournée donc, à la rentrée. Et il y a trois dates à la rentrée ici à Lyon, le 26, le 27 et le 28 novembre. Donc dans trois salles différentes, le Radiant Bellevue, parce qu'on se fera engueuler, le Radiant Bellevue, le Ninkasi KO et le Toboggan. Voilà, donc il faut vraiment écouter Benjamin Biolay, parce que c'est quand même un artiste qui en vaut la chandelle.
On a une grosse ambiance ici. Merci beaucoup Guillaume pour cette sortie bien sûr de Benjamin Biolay. On nous rappelle d'ailleurs que le barbecue est ouvert une fois de plus. Gaël, quel est ton Gédéon? Alors c'est une bande dessinée je crois.
Exactement. Une bande dessinée intitulée Stanley Green, une vie à vif, sortie le 27 mai dernier aux éditions Delcourt. Superbe BD que je souhaite promouvoir, puisqu'elle a souffert d'une sortie trop peu médiatisée, car au début du déconfinement. Avec un scénario de Jean-Daniel Morvan et les dessins de Tristan Filler, cette BD documentaire retrace la trajectoire hors norme du grand photojournaliste Stanley Green. Légendaire photographe, né en 1949 à Brooklyn, membre de l'agence Vue et membre fondateur de l'agence Nour, Nour qui veut dire lumière en arabe, Nour qui a été créé donc en 2007. Stanley Green commence sa carrière dans les années 70 dans le milieu punk et l'univers des Black Panthers. Black Panthers qu'il a d'ailleurs un temps été. Le 9 novembre 1989, il est à Berlin pour la chute du mur. Qui ne se souvient pas de sa fameuse photo légendée « Bon baiser à tous » immortalisant une ballerine rock en tutu qui était sur le mur avec une bouteille de champagne. Stanley Green a ensuite couvert de nombreux conflits, la guerre en Tchétchénie, en Syrie, l'Afghanistan, le Rwanda, également l'ouragan Katrina. La liste n'est pas exhaustive. Stanley Green a reçu de prestigieuses reconnaissances, dont 5 prix World Press Photo, le prix Eugène Smith, maître de Stanley Green, qui est également grand photojournaliste et présent aussi dans la BD. Et enfin, Stanley Green qui a reçu un Visa d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 2016 au Festival international de photojournalisme de Perpignan. Petit rappel, Visa pour l'image, hein, ce fameux festival de photojournalisme est bien maintenu cette année. La 32e édition comportera 20 expositions du 31 août au 15 septembre et l'entrée est libre. Pour Stanley Green, le credo d'une bonne photo devait, je parle à l'imparfait, car il est décédé en 2017 à l'âge de 68 ans. Une bonne photo devait donc contenir 3 éléments. Des tripes, du courage et surtout de l'humanité. Les deux auteurs de la BD, Stanley Green, Une vie à vif, ont su faire transparaître ce credo à travers le dynamisme du mode autobiographique. Jean-Daniel Morvan ayant écrit le scénario à la première personne et Tristan Filler assurant toute la fougue et la ferveur de Stanley Green, en plus de ses caractéristiques physiques, son grain de beauté sous l'œil gauche et son fameux béret. Peut-être un clin d'œil d'ailleurs au Black Panther, je ne sais pas. Le procédé de la BD s'organise en cases dessin, cases photo, avec un rythme visuel qui va s'accélérant. Au fur et à mesure de la BD, il y a davantage de photos. Après toutes les planches de la BD sont d'ailleurs présentées 23 photos planches contact de Stanley Green. BD trouvée, ma chère Gaëlle, chez Expérience, 5 places Antonin Poncet.
Ouais, nous avions parlé de cette librairie Expérience que j'adore, place Antonin Poncet, qui a toujours des petites merveilles à nous proposer. Alors moi, je vais terminer avec Picasso. Et oui, c'est pas si fréquent qu'on peut annoncer une exposition Picasso ici à Lyon. Picasso, baigneuse et baigneur. Du 15 juillet au 3 janvier prochain. Picasso fait de la plage un sujet et même dans son atelier, il est à la plage. En maillot de bain, dansant et jouant avec ses enfants, tout est divertissement et facétie pour ce génie très inspiré par les moments de vie partagés avec ses différentes compagnes et ses proches, bien sûr. La thématique des baigneurs et des baigneuses est non seulement de saison, mais dans l'exposition, vous découvrirez un Picasso intime, mais aussi de multiples rapprochements avec des artistes tels que Cézanne, Ingres et Renoir, qui l'ont précédé, mais aussi Henry Moore, son contemporain, sans compter les artistes contemporains inspirés par l'artiste décidément totalement incontournable. Allez voir cette exposition, elle est passionnante et foisonnante, des pièces rares prêtées par des collectionneurs privés et des grands musées qu'on ne reverra peut-être sans doute jamais. Profitez-en, allez passer une heure ou deux à la plage.